Bonsoir à toutes et à tous. Merci de bien vouloir mettre vos téléphones portables en mode avion ou pas déranger. J'ai oublié de vous le dire juste avant qu'on commence. Voilà, on ne vous présente plus Luc Boltanski et Arnaud Esquéré, tant votre œuvre personnelle et duale est connue et reconnue. Je rappellerai juste que vous êtes tous les deux sociologues qui exercent et ont exercé leur art et leur métier à l'École des hautes études en sciences sociales, où aujourd'hui, Arnaud Esquéré, vous dirigez en tant que chercheur au CNRS, l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, qui est une unité mixte de recherche, comme on dit, EHESS, CNRS, INSERM et Paris 13, c'est ça. Luc Boltanski, vous avez soutenu votre thèse de doctorat, on en parlait à l'instant avant que nous commencions, sous la direction de sociologie, sous la direction de Pierre Ansart, grand sociologue, insuffisamment connu en France, à mon sens aujourd'hui, un vrai pionnier selon moi, puisqu'il a été, entre autres, on en parlait tout à l'heure, un des tout premiers à s'intéresser à la sociologie des émotions, mais aussi à l'anarchisme. Hein, et je suis vraiment très content que nous nous croisions ce soir. En 75, Luc Boltanski, vous avez été un des fondateurs avec Pierre Bourdieu de la très fameuse revue Les Actes de la Recherche en Sciences Sociales, publiée par la Maison des Sciences de l'Homme, et aujourd'hui avec le concours, entre autres, du Centre de Sociologie Européenne, donc anciennement le centre qu'a dirigé Bourdieu, et d'autres structures comme Paris 1, Panthéon-Sorbonne. L'ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui est votre troisième opus écrit en commun, après Vers l'extrême, extension des domaines de la droite, titre qui fait un petit peu penser à Houellebecq, mais qui est tout à fait prémonitoire, 2014, et Enrichissement, deuxième ouvrage, une critique de la marchandise, chez le même éditeur que le vôtre maintenant, sur la collection NRF Essai Gallimard. Qu'est-ce que l'actualité politique est sous-titré Événements au pluriel et opinions au 21e siècle? Et sur la quatrième de couverture que je montre, on lit loin d'être un livre de plus sur la presse, les médias ou les réseaux sociaux, c'est un grand livre sur la formation de l'opinion publique en démocratie et la manière dont en sont affectées nos vies quotidiennes. Je confirme que c'est un grand livre. Et votre travail, ce sera ma première question, porte sur deux processus constitutifs de l'espace public. Le processus de mise en actualité d'un côté, le processus de politisation de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on va rentrer en détail dans votre œuvre, mais en quoi consistent ces deux processus et pour quelles raisons vous avez choisi de les mettre en intrigue, en quelque sorte, quelles sont donc les interactions qui existent entre ces deux processus? Alors, on commence celui qui veut, et après vous échangez très librement. Allez-y, monsieur Boltanski.
Oui, merci beaucoup pour cette présentation et merci beaucoup de nous accompagner dans ce trajet à Bordeaux et dans cette rencontre qui nous fait grand plaisir. Arnaud et moi, nous intéressions après le enrichissement qui était un travail de sociologie économique, on cherchait à regarder l'autre versant si important dans la vie quotidienne d'une société qui est la vie politique. Et je dois dire que ce qu'on avait fait en sociologie économique ne nous aidait pas tellement à comprendre le monde politique. Et c'est Arnaud qui a eu l'idée de partir des commentaires publiés dans le monde numérique. Moi, j'avais, il y a très longtemps, fait un article à partir des courriers, de certains courriers reçus par Le Monde, et Arnaud m'a proposé de comparer les deux et de repartir sur le numérique, ce qui évidemment m'intéressait beaucoup. Et donc, si vous voulez, au fond, cet objet un peu bizarre, on a eu un peu de mal à l'obtenir du Monde. On a fini par obtenir 120 000 commentaires des mois de septembre et octobre 2019. Et puis, on a ajouté un autre corpus.
8 000 commentaires sur de l'INA.
Exact, ouais. C'est ça, d'actualité passée. Et au fond, si vous voulez, cet objet nous confrontait avec quelque chose qui était ni une sociologie habituelle du comportement politique, comme le vote, ni une sociologie habituelle des médias. Et un objet qui au fond, je dirais, n'existe pas vraiment en sociologie, le seul qui en a parlé un peu de la même façon, c'est Tarde, s'est dégagé pour nous, qui est la question de l'actualité, qui est centrale dans nos vies. Nous sommes tous plongés sans arrêt dans l'actualité, en ce moment, malheureusement, dans une actualité tragique, mais ça pourrait être une actualité moins tragique. Je pense, par exemple, l'élection de Biden. On était tous plongés, qui se passait à des milliers de kilomètres de chez nous. On était tous plongés dans l'élection de Biden. Nous sommes tous plongés dans l'actualité. C'est notre culture commune, ou une part de notre culture commune. C'est ce dont nous parlons entre nous. Et ce phénomène tellement important et typique des sociétés modernes a été finalement assez peu étudié en tant que tel. Il y a une sociologie des médias comme organisation, il y a une sociologie des carrières de journalistes, il y a une sociologie du rapport des journalistes à la politique, ce sont d'excellents travaux, mais ça n'est pas, on a repris le terme de Foucault, une ontologie de l'actualité. Voilà. On a voulu faire une ontologie de l'actualité. Qu'est-ce que c'est que ce truc dans lequel on est sans arrêt plongé? Et donc, on s'est intéressé au processus de mise en actualité et aux caractéristiques, sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure, si vous voulez, de cette actualité qui plonge chacun dans un univers qui est différent de son monde vécu, auquel il n'a pas accès et par rapport auquel il ressent pourtant des émotions, des opinions, etc. Et l'autre versant, les processus de politisation.
C'est la deuxième partie de votre
travail. Deuxième partie du travail. C'était l'idée que on parle souvent du politique, avec comme si c'était quelque chose un peu mystérieux, mais qu'au fond, quand on regarde en sociologue ce qui se passe, on assiste à des processus de politisation. Et qu'est-ce que c'est que des processus de politisation? C'est quand quelque chose qui n'était pas considéré comme politique, tout d'un coup, ou à partir d'une cause, d'une campagne, est considéré comme politique. Et à l'inverse, il y a des processus de dépolitisation, des choses qui paraissaient, pour ma génération, par exemple, je ne dirais pas combien d'années, centrales en politique, n'intéressent plus grand monde, et sont remplacées par d'autres thèmes politiques. Eh bien, nous avons cherché à regarder l'interaction, la dialectique de relations entre ces processus de mise en actualité et ces processus de politisation.
Alors, je rebondis sur une expression que vous avez employée, qui est l'ontologie de l'actualité, pour me tourner vers Arnaud Esquerré, puisque cette réflexion, vous l'écrivez, cette notion, en évoquant Michel Foucault, dans le commentaire que Michel Foucault fait du texte de Kant, Qu'est-ce que les Lumières, hein. Et d'ailleurs, vous écrivez, page 10, sous le terme d'actualité, nous ne placerons pas d'emblée des personnes ou des organisations, mais de multiples savoirs concernant le monde et ce qui s'y passe. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Arnaud, s'il vous plaît, l'ontologie de l'actualité, qu'est-ce que vous entendez par là, et en quoi ça va porter votre travail?
C'est tout ce qui nous arrive, et tout ce qui nous arrive, comme le disait Luc, ça peut être des choses qui nous arrivent dans nos vies personnelles, donc ça sera notre expérience personnelle, ce qu'on dira être notre monde vécu, et puis ce sont des choses qui arrivent au loin et qu'on ne connaît que par le truchement, en fait, des supports d'information, que ça soit principalement les médias, et puis ça circule ensuite maintenant via les réseaux sociaux, etc. Et donc c'est ça qui constitue tous ces faits, l'ensemble de ces faits qui constituent, qui sans cesse arrive, qui constituent l'actualité. Mais ces faits, ils sont associés à quelque chose qui est que on les interprète. Ils sont livrés très souvent avec une interprétation quand ils arrivent au loin. Et donc, une des choses qui est importante pour déployer le travail qu'on a fait, c'est d'insister sur ce problème de la séparation ou de la compréhension de ce couple qui est le fait, l'interprétation, c'est la manière dont en général une nouvelle se présente, c'est en mélangeant un fait et une interprétation. Et très souvent, quand on commente l'actualité, ce qui nous arrive, ce qu'on fait, c'est qu'on fait varier l'interprétation du fait qui nous est arrivé. Tu as ton propre micro, Luc.
Pardon. Alors on voit bien d'ailleurs, c'est dans votre texte toujours, parce que l'introduction, je recommande sa lecture attentive, parce qu'elle est vraiment passionnante, comme tout le reste du livre, hein, mais dans l'introduction, vous posez véritablement les définitions des notions. Je reviendrai sur un autre aspect qui est votre lexique final, qui est vraiment passionnant. Dans l'introduction, vous distinguez évidemment culture ou actualité, vous venez d'en dire quelques mots, hein, et vous dites que ce sont deux milieux intermédiaires qui ont joué en sciences humaines un rôle comparable à celui de l'éther dans l'ancienne physique classique, c'est-à-dire un fluide hypothétique censé servir de support à la propagation des ondes lumineuses. J'avais oublié cette propriété qui était donnée à l'éther. La distinction entre culture et actualité, on voit bien qu'elle est essentielle, et en plus, entre les deux, parce que c'est au cœur aussi de votre introduction, la temporalité est différente. On est bien d'accord. Je sais pas qui, monsieur Botlansky, peut-être.
Oui. Pour ce qui est de l'éther, évidemment, l'éther n'existe pas, tandis que l'actualité existe. Mais si vous voulez, c'est un problème central de la sociologie. Je dirais que c'est quasiment le, entre guillemets, problème de la sociologie. C'est que nous sommes dans des univers qu'on appelle des sociétés. Souvent, ça veut dire des états-nations composés d'individus. Dont Anna Arendt, par exemple, qu'en tant que politiste, vous connaissez bien,
à laquelle vous faites référence, hein.
Nous faisons souvent référence, qu'il s'agit chaque fois de singularité dont l'intériorité est inconnue, et pourtant cela tient, quelque chose tient entre eux. Alors évidemment, on dira ce qui fait tenir, c'est le droit, c'est l'État, c'est les institutions, mais il y a aussi des points communs qui vont servir de saillance autour desquels les personnes vont pouvoir se rencontrer. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'actualité, nous ne mettons pas seulement les médias, mais aussi toutes les conversations, toutes les préoccupations, toutes les conversations ou les disputes que nous avons les uns avec les autres à propos de ce qui se passe et de ce que pourtant nous ne vivons pas au sens corporel. Cela se passe, nous savons que ça peut agir sur nous, mais cela prend des formes différentes. Si vous voyez un tsunami à la télévision ou si vous êtes au milieu d'un tsunami, c'est deux expériences totalement différentes.
Vous reprenez les commentaires à propos des faits d'actualité, hein. Je pense à l'extrait de Lina sur ce qu'on appelle les hommes qui chutent, les gens qui sont balancés par les fenêtres du World Trade Center le 11 septembre 2001, pardon. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit je l'ai ressenti jusque dans ma chair. C'est terrible d'imaginer la chute de 400 mètres. Il y a une intériorisation très forte des événements, hein, c'est ça.
J'avais travaillé là-dessus dans un livre écrit il y a très longtemps qui s'appelait La souffrance à distance.
Oui, c'est vrai.
Qui était écrit en fait à l'occasion des guerres yougoslaves il y a 30 ans. Bon, je ferme cette parenthèse. Alors sur la temporalité, elle intervient sans arrêt dans le livre. Je dirais d'une part parce que le terme même d'actualité fait référence à la temporalité, c'est ce qui est actuel. Et du même coup, ça pose un problème sur lequel nous revenons régulièrement, qui est celui du rapport entre actualité et histoire.
Bien sûr.
Et ensuite, sur comment l'actualité nous advient. Ce que nous développons, c'est l'idée que, contrairement à l'idée d'un flux constant d'actualité, en fait, ça doit être organisé dans des plans d'actualité correspondant à la journée ou à la semaine pour pouvoir être intégré, et que au niveau de ces plans d'actualité, les nouvelles qui arrivent sont organisées structurellement. La nouvelle la plus importante ou jugée la plus importante, puisqu'il y a une sélection, l'emportant sur les autres. Et puis, la temporalité vient dans le livre au niveau de la théorie sociologique sous-jacente au livre, qui est celle d'essayer de développer une sociologie processuelle, c'est-à-dire une sociologie qui, au lieu de tout poser sur l'existence, de tout baser sur l'existence de structures, prend en compte ce qui se passe, c'est-à-dire les événements et les processus successifs d'événements.
Ce qui vous fait dire, pardon, Arnaud va, je pense, rebondir, donc, à l'inverse d'une certaine doxa, ou plus exactement, dites-vous, d'un certain slogan, dont vous dites qu'il accompagne souvent les processus de politisation, par exemple depuis la Révolution française, et qui n'a cessé de soutenir l'attente d'une révolution totale, vous écrivez qu'une approche processuelle fait voir en effet qu'il n'est pas plus vrai de dire que tout est social que d'affirmer que tout est politique. Mais c'est pour m'y ajouter que tout est néanmoins politisable, en sorte que c'est d'abord par sa plasticité que se manifeste l'emprise de la politique sur les mondes vécus. Alors, vous allez me dire si j'ai bien compris. Si je n'ai pas bien compris, vous allez me mettre un zéro. Si je résume d'une phrase votre proposition, cela conduirait à dire ici, sans vous trahir, j'espère, que si tout n'est pas immédiatement politique, tout peut immédiatement le devenir. Est-ce qu'on est d'accord, Arnaud ?
Tout peut devenir politique, mais tout n'est pas politique.
D'accord.
Et parce que pour que... on est parti d'une idée simple, c'est-à-dire que... Enfin, d'abord, aussi, c'est un des résultats, et c'est ça qui est intéressant quand on fait des enquêtes, c'est qu'on est... Le matériau, évidemment, nous fait réagir. Et... Premièrement, d'abord, pour qu'on puisse concevoir même l'idée de politique, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne le soit pas, c'est-à-dire qu'il soit hors politique. Et évidemment, quand on est confronté aux nouvelles de l'actualité, il y a un certain nombre de nouvelles qui sont politiques, et puis d'autres, en fait, qui ne le sont pas, ce qu'on appelle très souvent des faits divers.
Par exemple. Oui.
Et dans le livre, par exemple, on prend des choses qui sont pas considérées comme étant sérieuses aussi, comme dans les médias, par exemple les horoscopes, ça c'est considéré comme étant pas sérieux. Mais tout est politisable, c'est-à-dire que y compris des éléments qui peuvent être des éléments économiques qui sont pas politisés à un moment donné, puis tout d'un coup qui deviennent politisés. Et une des manières dont la politisation se fait, c'est précisément en faisant varier l'interprétation des faits, c'est-à-dire quelque chose qui était présenté comme un fait qui était hors politique, un fait divers précisément, tout d'un coup, en fait, on va l'interpréter totalement différemment et ça devient un fait politique. C'est pour ça que effectivement tout est politisable.
Alors, on arrive à ce que j'évoquais tout à l'heure, votre fameux lexique conceptuel. Alors, je voulais le signaler parce que c'est assez rare, je trouve, dans un ouvrage de ce niveau. C'est dans la partie appendice. Il y a 7 pages passionnantes. Il y a 50 termes et concepts qui sont définis, parfois très simples, utilisés dans le langage courant et pas toujours dans le langage sociologique. Je pense on trouve on. Hein, vous avez dit à l'instant, Arnaud, on va politiser. Hein, on, les nouvelles, commentaires, actualités, événements, fatras, et puis des termes plus scientifiques, coalescence, ou le style ironique dans les commentaires. Vous faites la distinction entre vérité et justesse, ou entre adversaire et ennemi. J'ai trouvé que c'était très stimulant, et franchement, je pense que ça permet aussi d'avoir une forme de retour sur les termes qu'on va employer un peu constamment. Si je prends un exemple, le mot actualité, en 6 lignes et demie, vous avez une phrase. Le présent de l'actualité ne cesse de se déplacer sur la flèche du temps calendaire. On peut le qualifier de mobile. Alors, cette fugitivité de l'actualité, quand on est chercheur comme vous, sociologue, comment est-ce qu'on fait pour la saisir, pour l'attraper? On ne peut pas faire un arrêt sur image. Comment on fait?
Bah écoutez, on ne peut jamais saisir toute l'actualité au sens du contenu de ce qui appartient à l'actualité d'un moment. Ça dépasserait, parce que les différents plans d'actualité, celui des hebdomadaires, celui de, si vous voulez, les instruments qui nous délivrent, alors les médias pour le coup, sont des périodiques. Et les conversations elles-mêmes sont périodiques. Par exemple, Arnaud me disait, en venant dans le train, il me disait, c'est bizarre, au fond, le Covid, avec ce qui se passe à l'est de l'Europe, a plus ou moins quitté le plan d'actualité. Et c'est vrai. Et c'est vrai, on en parle un petit peu, on peut, c'est dans la tête des gens, mais disons, ça n'est plus au cœur du plan d'actualité. Comme
il y a des espèces de bulles qui remontent un peu à la surface. Hein.
Mais si vous voulez, au niveau conceptuel, on peut essayer de définir les événements et de définir ce qu'est l'actualité et l'ensemble des définitions, des descriptions de mots dont vous avez parlé, le lexique qui est à la fin, il a un but très simple, c'est de rendre ce que nous écrivons discutable. Parce que on a quand même une petite prétention quand on est sociologue à faire quelque chose, disons, de scientifique. Et ce qui caractérise ce qui est scientifique, c'est que ça s'offre à la discussion.
À la réfutabilité.
Et à la réfutabilité, à la discussion de collègues. Et donc, si un collègue vous dit, vous employez actualité tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, vous employez coalescence ici avec ce sens-là, avec un autre, ben, ça devient plus discutable. Et donc là, au moins, on peut discuter la cohérence du système conceptuel et puis ensuite la cohérence des méthodes que nous avons utilisées pour mettre en œuvre ce travail, empiriquement.
Arnaud, peut-être, vous voulez... Ah, pardon, vous étiez en train... Allez-y. Oui, pardon, je vous laisse vous servir un peu d'eau. Peut-être d'un mot sur votre corpus, hein, Luc Boltanski, parce que c'est vous qui en avez parlé tout à l'heure. Ah, c'est considérable, hein, 120 000 commentaires extraits donc, pendant 2 mois. Et vous avez dit d'ailleurs, on a choisi entre guillemets la bonne période, parce que il n'y avait pas de
pression. Il ne se passait pas grand-chose.
Il se passait pas grand-chose. Hein, voilà. Cela dit, vous dites, l'analyse de ce genre de matériel présente pour les sciences sociales un défi nouveau, et en particulier, d'ailleurs, ça fait l'objet c'est un des 50 mots dans le lexique conceptuel, ben, les commentaires, ils sont sous pseudonyme. Hein, et vous donnez d'ailleurs ce que ça veut dire. Utiliser un pseudonyme est une façon d'intervenir dans l'espace public en attribuant ce qui est énoncé à un personnage fictif distinct de la personne qui réalise effectivement cette énonciation et dont le nom d'état civil demeure caché. Quelles sont les difficultés méthodologiques, pour reprendre l'expression du métier de sociologue, mais auquel votre métier de sociologue s'est heurté?
Alors, il y a d'abord la masse des commentaires, puisque on avait 120 000 courts textes et 8 000 petits textes aussi de la part des chaînes de l'Institut national du visuel. Et donc, évidemment, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour analyser une telle masse de textes, en sachant par ailleurs que, contrairement à la méthode qu'on suit généralement en sociologie, qui est qu'on se centre sur les personnes, c'est-à-dire qu'on a des caractéristiques sur le profil des personnes, etc. Et que là, en fait, ces caractéristiques précises, parce qu'on avait des profils très généraux, par exemple, d'électrices et d'électeurs du Monde, mais on n'a pas des caractéristiques précises toutes les personnes qui contribuent. Donc, pour vous donner une idée, un ordre de grandeur, le Monde, aujourd'hui, qui est un journal qui a réussi sa transition numérique, a à peu près... 400 000 abonnés, enfin même un peu plus que ça maintenant, numérique. et une vente en kiosque au numéro papier, hein, qui est environ à 30 000 exemplaires. Donc c'est un journal.
30 000 exemplaires.
C'est un journal. Oui. C'est un journal en fait qui
ouais, vous comptez pas les abonnés papier, bien sûr.
Et les abonnés papier, c'est 50 000 à peu près.
Ah, c'est tout.
Donc c'est aujourd'hui un journal qui est principalement lu en ligne et qui n'a jamais été autant lu. C'est-à-dire que il a jamais eu autant de lectrices et de lecteurs. Et donc le fait qu'on le lise en ligne fait que on peut commenter en ligne, ce qui a été quelque chose qui a été ouvert par les différents médias aux États-Unis, en Europe, dans le milieu des années 2000. Certains ont arrêté, d'autres ont continué. Le Monde a continué. Et il y a environ 2500 personnes chaque mois qui contribuent, donc une minorité des abonnés au Monde en ligne qui écrivent des commentaires.
Avec des habituels, j'imagine.
Avec à l'intérieur une structure mais qu'on retrouve par ailleurs, qui est que une minorité écrit beaucoup et une majorité écrit peu. Qui est une distribution un peu classique.
Sachant qu'ils peuvent changer de pseudo, hein.
Non, ils peuvent pas changer de pseudo, non, parce que le système, en fait, pour contribuer,
ah oui, l'adresse
ne
IP
permet
fait
pas.
Que ça bloquerait s'il changeait.
Bah parce qu'en fait, le pseudo est lié au nom de l'abonné.
Oui, c'est ça. Ah, d'accord.
Donc,
ah, oui,
pour les abonnés du Monde. Après, pour le site de l'INA, là, justement, ce qui nous intéressait, c'est que c'est ouvert. Mmh. Donc là, effectivement, il y a des pseudos qui peuvent changer.
Donc vous avez quand même réussi un peu à cibler. À caractériser un peu le votre corpus quand même.
Donc on a essayé et donc ce qui nous a intéressé, c'était qu'est-ce que ces gens disent, parce que c'est ça qui nous intéressait. Et donc on a fait une méthode qui était double, c'est-à-dire qu'à la fois on a fait une méthode, une lecture lointaine pour et une lecture proche, c'est-à-dire une lecture lointaine en utilisant un tableur Excel pour avoir des occurrences, en fait, de nombre de mots qui sur un certain nombre de, à la fois les mots les plus utilisés, aussi les personnes qui contribuent le plus, etc. Et puis en lisant aussi les commentaires, puisque le problème des logiciels, on a regardé un peu tous les logiciels qui existaient, c'est que quel que soit leur degré de sophistication, et d'ailleurs c'est le même problème qu'ont les gens qui modèrent les commentaires, parce qu'il y a une modération, c'est qu'on peut avoir des logiciels qui identifient des mots, mais par contre, ils n'identifient pas le sens des mots et pas le sens des phrases. Et donc, on a lu des commentaires, on en a lu beaucoup. Et d'ailleurs, il y a un livre qui a été publié il n'y a pas si longtemps, enfin, quelques mois avant nous, de Michel Auferlé, avec un co-auteur sur les lettres écrites au président de la République. Et il a été confronté au même problème, hein, c'est qu'il avait énormément de lettres. Alors lui n'a pas utilisé de logiciel pour compter, mais il a lu les lettres aussi. Il dit qu'il en a lu 10 000, je crois, de mémoire. Et donc, il faut les lire. Donc, on a fait cette double méthode. Et comme on était deux, ça permettait de recouper aussi la manière dont on travaillait.
Alors, vous abordez un aspect essentiel dans votre travail, toujours dans l'introduction, ce que vous appelez les affinités de structure qui rapprochent le temps présent, donc l'époque actuelle. Et vous appelez cela des moments. Hein. Alors, aujourd'hui, vous dites, nous sommes dans un moment réseau, au pluriel, on a en tête aussi les travaux de Manuel Castells, qui sont déjà un petit peu anciens, sur la société en rhizome, etc. Bon, donc, moment en réseau. Avant-hier, vous dites, on était dans le moment foule, 1870-1914, puis dans le moment masse, 1930-1970. Dans les trois cas, écrivez-vous, un nouvel actant, la foule, la masse, le réseau, menace la société par son action violente, aveugle et malfaisante, entre guillemets. Est-ce qu'on peut dire que ces moments sont aussi des moments schumpeteriens, c'est-à-dire qu'en fait, ils menacent, voire détruisent, mais ils reconstruisent aussi quelque chose sur la destruction, ou c'est abusif de dire ça?
C'est un passage que vous citez qui propose un thème qui n'est pas profondément développé dans le livre, mais qui nous intéresse beaucoup, qui mériterait, je trouve, d'être historiquement plus travaillé. Ça l'a été un peu pour les foules par un chercheur danois qui s'appelle Borch, qui a fait un excellent livre, qui est une espèce de réécriture de l'histoire de la sociologie à partir des travaux sur les foules qui ont été très nombreux jusqu'à Freud.
Oui, oui, oui.
Jusqu'à Freud.
Jung, Freud, Jung, oui, oui.
Et Jung, oui, c'est ça. Et si vous voulez, en fait, derrière ce thème, il y a deux choses qui vont ensemble. Il y a ce problème dont je parlais tout à l'heure des individus pris comme des singularités et de la masse et de l'ensemble et de la totalité des individus qui interfèrent dans une société qui va renvoyer au problème du pouvoir, comment ça tient ensemble, pourquoi est-ce que ces gens ne s'entretuent pas, touche du bois, pourquoi est-ce qu'ils ne se disputent pas tout le temps, etc. Et l'autre problème qui est celui qui va avec, c'est celui de la démocratie. Est-ce que la démocratie est un régime politique qui permet à ces personnes de tenir ensemble, ou bien est-ce que ça va s'abîmer dans des régimes autoritaires où la tenue de la totalité va se faire par une main de fer? Et alors, dans cette littérature au 19e, ça a été beaucoup sur les foules. Et il y a eu tout un ensemble de travaux, il y a eu une mode énorme, qui notamment à partir de la description des foules révolutionnaires, donc c'était plutôt une littérature de droite, anti-républicaine, a développé l'idée étrange que les individus seuls avaient une morale, mais quand on les mettait ensemble, toute leur retenue disparaissait et que ils étaient emportés en quelque sorte par la proximité de leur corps jusqu'à des violences indicibles. Et puis, vous avez eu un autre moment dans l'entre-deux-guerres qui a été lié à la montée des fascismes, qui a été l'idée que c'était les masses qui, en fait, étaient au pouvoir. Et la masse, ça n'était plus une foule incohérente. C'était au contraire des personnes toutes semblables les unes aux autres, en uniforme, habillées pareil, écoutant la voix d'un leader.
Et qui faisait les mêmes mouvements, souvent.
Qui faisait le même mouvement. Et donc, le premier moment des foules, ça a été lié à la naissance de la grande presse, en fait, agitant les foules. Et le moment masse, ça a été très fortement lié à une autre technologie,
la radio,
qui a été celle de la radio, et du leader qui parle avec des haut-parleurs.
Ça, c'est la scène du dictateur de Chaplin.
Exactement, exactement. Et aujourd'hui, ce dont on entend parler sans arrêt, sans en avoir de preuves quand même, c'est les réseaux au sens d'Internet et des réseaux sur lesquels les personnes interviendraient avec toute leur violence et anonymement, et ces réseaux qui entraîneraient une brutalisation de la société. Alors on peut dire, si vous voulez, que ces grandes craintes apparaissent particulièrement jusqu'à ce que se développent des systèmes de contrôle qui contrôlent les différents dispositifs techniques, une loi sur la presse, etc., des systèmes de contrôle, comme on est en train d'en monter pour Internet, qui contrôlent. Mais je pense que, si vous voulez, que ces thèmes nous parlent en nous, parce qu'il y a en nous sans arrêt une inquiétude du social, une inquiétude de tous ces gens avec qui je suis, au fond. Moi, je ne me sens pas agressif à leur égard, chacun se dit ça, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête et pourquoi est-ce que nous tenons ensemble? Comment faire pour vivre ensemble?
Vous dites quand même à Arnaud que, enfin, je ne sais pas lequel des deux, comment vous avez écrit, mais qu'à propos quand même de ce moment réseau, les personnes non moins désindividualisées et dépersonnalisées sont privées de corps. Et la capacité est ainsi offerte, ajoutez-vous, à des trolls de détruire la stabilité démocratique, on va y revenir sur la question de démocratie démocratique, et de faire et défaire l'opinion. Est-ce que là, il y a un changement de degré dans cette désincarnation, en quelque sorte?
C'est-à-dire, on est parti de l'idée de décrire la démocratie telle qu'elle est, et telle qu'elle est aujourd'hui en démocratie représentative libérale qu'on vit nous. Donc il y a deux, ça a plusieurs conséquences quand je dis cette phrase, c'est que D'abord, on considère qu'on vit en démocratie. Et alors, je le dis parce que, si vous voulez, vous avez deux critiques qui sont symétriques. Une critique qui consiste à dire, avant c'était la démocratie, mais maintenant avec les réseaux sociaux, cette démocratie n'existe plus vraiment, elle est mise à mal, etc. Et puis vous avez une autre critique qui est tout à fait symétrique, qui consiste à dire ce qu'on vit est une fausse démocratie parce que en fait c'est une oligarchie et la vraie démocratie en fait elle est à venir, donc elle est tournée, elle, une critique qui est tournée vers le futur. Et donc le problème de ces deux critiques qui sont symétriques, c'est qu'elles clôturent en quelque sorte le questionnement de ce qu'on vit, et elle fait obstacle à une interrogation ou une description en fait de la démocratie telle qu'on la vit. Alors l'autre élément, c'était de considérer que dans cette démocratie, chacune et chacun d'entre nous a une capacité critique. Et c'est ce qui ressort en fait des commentaires, c'est la diversité extraordinaire en fait de chacune et chacun à faire varier les interprétations. Et donc ça s'oppose à une autre idée qui est de considérer au fond que dans démocratie, les médias fabriquent l'opinion, et que l'opinion étant fabriquée par les médias et ceux qui les tiennent, le vote est faussé en quelque sorte. Donc c'est tout un, il y a beaucoup de, ça a été extrêmement développer
l'opinion publique n'existe pas.
L'opinion publique n'existe pas. La fabrication de l'opinion, c'est très 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 récurrent. Simplement, d'abord, ça ne dit jamais comme pourquoi les gens qui dénoncent en fait cette fabrication de l'opinion, eux, y échappent. Et puis ça fait écran sur le fait que sur la diversité en fait des commentaires qui participent à cette démocratie.
Je me permets de lire la fin de votre introduction, parce qu'il se trouve que nous sommes le vendredi 8 avril 2022, donc à deux jours du premier tour de l'élection présidentielle, et je trouve que ce texte est tout à fait remarquable, parce que il est pour le coup, pardon d'employer le terme, d'une troublante actualité. On peut rapprocher peut-être cet agacement lassé, mais aveugle, à l'égard de la démocratie, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, à l'instant, Arnaud, conduisant à lui préférer, pour le moment, entre guillemets, un régime plus autoritaire et moins libéral, de l'attitude, on peut rapprocher cela, donc de l'attitude qui a conduit nombre d'intellectuels allemands du début des années 1930, qu'ils se soient réclamés de la droite ou de la gauche, à ne pas bouger le petit doigt, pour défendre la République de Weimar, comme si elle ne méritait pas mieux que de s'abîmer dans le vide. Quant à la critique de la démocratie telle qu'elle est, au nom d'une lutte pour une démocratie authentique, parfaite, qui n'a encore jamais existé et resterait donc à venir, elle est, sans doute, plus que ceux qui la mettent en œuvre ne semblent le penser, ancrée dans la formule même de ce régime politique, dont l'une des particularités est d'être sans cesse engagé dans un interminable processus d'autocréation qui retourne contre lui-même, une attitude critique dont il est à peu près le seul à tolérer l'expression. On se dit que le régime est, comme on dit, bonne fille. Néanmoins, bien qu'étant par son anthropologie optimiste le pendant inverse du penchant à l'autoritarisme, cette critique risque de contribuer toujours, en dénonçant la démocratie comme fausse, à la faire sombrer. C'est un texte assez sombre, c'est le cas de le dire. Je voulais le lire parce que on voit bien que, comme vous dites, l'actualité et l'activité politique est constamment aussi en forme de réinterrogation de notre mode démocratique. Pourquoi dites-vous que l'actualité intervient dans la vie sociale un peu à la façon des religions, paraphrasant Hegel? Ça, c'est page 29.
Ça aussi, c'est pas un thème que nous poussons énormément, mais ça va avec culture. Ça fait partie de ces milieux intermédiaires. Religion, c'est ce qui relie. C'est ce qui relie ceux qui sont entreliés ou qui opposent ceux qui sont de religions différentes. Mais c'est pas un thème très important dans le.
Alors, ce qui est quand même pour le coup central, c'est qu'est-ce qui va faire que ce que je vous appelle un événement va devenir un événement politique. Hein. Il y a des faits qui surviennent. On a le sentiment qu'ils sont immédiatement étiquetés historique ou fondateur. Alors, on a ça en tête, hein, 9 novembre 89, chute du mur, bien sûr, 11 novembre 1918, 8 mai 45, 11 septembre 2001, on en a parlé. Et puis, il y a d'autres événements qui n'acquièrent pas ce statut immédiatement. Et peut-être c'est le temps qui va les faire remonter comme des éléments de, j'allais dire, de rupture ou de changement. Je pense au 13 mai 58, par exemple. Il se passe rien véritablement d'historique le 13 mai 58. C'est le début du processus de retour du général de Gaulle au pouvoir, mais c'est pas un moment qui est une date. Hein. Pourtant, on parlera toujours de la crise du 13 mai 58. Voilà. Comment est-ce que ça se perd, ça, cet étiquetage?
Alors, si vous voulez, votre question est évidemment tout à fait pertinente et centrale. Je dirais que dans le livre, on a surtout essayé de décrire les moyens par lesquels se fait la mise en événement. Parce que le concept d'événement est un concept qui est à la fois très important, notamment en philosophie, tout en ayant des sens très différents. Si je fais tomber ce livre, ou si je fais tomber mon micro et que je le casse, c'est un événement. Tout changement d'état peut être considéré comme un événement. Et donc, nous, ce qui nous a intéressé, c'était les événements qu'on allait retrouver dans l'actualité. Et donc, on a considéré que le monde était qu'on va appeler un tohu-bohu, qu'on personne ne peut évidemment totaliser tout ce qui se passe dans le monde.
Un fatra, vous dites.
Comment?
Un fatra.
Non, le fatra, c'est dans la tête.
Ah oui.
Le fatra, on y viendra. un tohu-bohu. Et que dans ce tohu-bohu, il y a des changements d'état qui affectent un nombre suffisamment important de gens pour que ça laisse des traces, oui. Que ces traces sont enregistrées et qu'on les appelle des faits. Nous avons pris le parti contre un constructivisme en sociologie un peu généralisé, un peu banalisé, de considérer qu'il fallait, on a utilisé un philosophe qui s'appelle Meillassous, qui a relancé l'idée de réalisme, de considérer qu'il y avait réellement des choses comme étant des faits qui existaient, d'ailleurs qui avaient toujours une existence matérielle, qui existait dans le monde des choses, qui laissait des traces, qu'on pouvait enregistrer, etc. Et que un événement se développait et prenait de l'importance quand un grand nombre de ces faits pouvaient être coordonnés. Mais que ces faits existaient à différentes échelles, et la question de l'échelle étant très importante dans le cas de l'événement, on a utilisé un texte très classique là-dessus, qui est le premier où il apparaît d'une certaine façon, qui est la Chartreuse de Parme avec Fabrice qui se demande s'il a vraiment assisté à la bataille de Waterloo, qui était à une grande échelle, alors qu'il se trouvait à la petite échelle d'être à côté d'une cantinière entourée de chevaux au galop avec un cadavre sur le dos. Bon. Et puis aussi des travaux comme ceux de Gobi qui était paru dans Annales sur mai 68. Qui peut évidemment prendre des sens différents selon que vous regardez mai au niveau mondial de l'année 68-69 où il s'est passé beaucoup de choses, mai à Paris ou mai au niveau de Pierre qui s'est fait taper sur la tête la nuit des barricades. Et donc là-dessus, nous avons cherché à montrer que les grands événements politiques étaient des moments dans lesquels un régime politique se transformait ou était menacé. Et que donc, ça n'était pas pour rien qu'on appelait D'accord. ces moments-là, et que cela entraînait des périodisations qui allaient intervenir par rapport au rapport entre les générations.
Et entre actualité et histoire.
Et entre actualité et histoire.
Ouais. Arnaud, si vous voulez ajouter quelque chose.
Luc était parfait, comme toujours.
Alors, Ça nous amène, vous en avez parlé tout à l'heure, à cette notion très intéressante de plan d'actualité, hein, dont vous dites la place dévolue à chaque nouvelle, hein, là encore, le mot nouvelle est dans le lexique, la place dévolue à chaque nouvelle dépend de l'importance relative qui lui est reconnue par rapport aux autres nouvelles présentées simultanément, dont l'agencement se reconfigure à chaque nouveau plan. Et ça, c'est très intéressant comme image, un peu à la façon dont chacun des coups joués reconfigure une partie d'échec. Bon, alors, on a lu aussi Norbert Elias et on voit comment les pièces jouent sur l'échiquier. Il y a un exemple qu'on donne souvent, c'est le 5 mars 53. Bon, date particulièrement connue parce que c'est la mort de Staline. Voilà, bon. Mais le même jour, Prokofiev, le célèbre auteur de Pierre et le Loup, entre autres, mais enfin connu de tous les enfants, il meurt, je crois que c'est à Moscou, aussi le 5 mars 53. Pendant 10 jours, les Russes, au sens large, je dis comme le général de Gaulle, les Russes, c'est pas les Soviétiques, sont dans une tristesse absolue, et la mort de Prokofiev passe complètement à la trappe. Bon, est-ce que vous pouvez nous expliquer à propos de la périodisation de l'histoire et de l'actualité, on y vient, Arnaud, ce que vous appelez le temps des faits et le temps de l'énonciation?
Alors, d'abord, le premier point, c'est que histoire et actualité forment un couple. C'est-à-dire que l'actualité se comprend par rapport à l'histoire et l'histoire aussi se comprend par rapport à l'actualité. Alors, souvent dans une asymétrie, c'est-à-dire que on a tendance, en tout cas en sciences humaines et sociales, à dévaloriser l'actualité et à valoriser l'histoire, alors qu'en réalité, ils ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Simplement, ce qui diffère, c'est que si on considère qu'il y a des faits, et puis qu'il y a un moment où on parle des faits, c'est-à-dire le temps de l'énonciation, quand on en parle, et le temps des faits, le temps où ils sont arrivés, la particularité de l'actualité, c'est que le temps des faits et le temps de l'énonciation se confondent, qui est sa définition même, d'ailleurs, de l'actualité. Tandis que dans le temps dans l'histoire, en fait, le temps des faits est dissocié du temps de l'énonciation, le moment où on en parle, puisqu'il est rejeté dans le temps des faits, et celui est rejeté dans le passé. Voilà, donc ça c'est vrai que ça c'est disons le point là. Et il y a un autre élément dont vous avez parlé, qui est lié à la question des plans d'actualité, c'était aussi de considérer, et ça c'est un autre parti pris, c'est que vous savez, on dit toujours le fil continu de l'actualité. Et en fait,
à une époque, on parlait, je crois qu'on en parle toujours, du fil AFP.
On va dire le fil AFP ou le fil continu de l'actualité. Et en fait, on s'est rendu compte que cette expression était fausse pour une raison qui est que, au contraire, en fait, l'actualité est organisée en étant sans arrêt coupée. C'est pour ça qu'on a parlé de plan d'actualité. C'est ce que lui disait tout à l'heure. C'est présente de manière périodique et précisément, en fait, chaque plan chasse l'autre, et c'est d'ailleurs ce qui est reproché en général à l'actualité, à la critique de l'actualité. Enfin, l'une des deux grandes critiques de l'actualité, l'autre étant une critique qui porte sur la sélection des faits, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on sélectionne tel fait plutôt que tel autre.
Alors là, par exemple, il y a un exemple très très intéressant, c'est ce que vous appelez c'est ce qui est advenu le 23 décembre 2020, le crime de Saint-Just. Saint-Just, ça n'a rien à voir avec le révolutionnaire. Si j'ai bien vu, c'est une commune du Puy-de-Dôme, hein, où trois gendarmes sont abattus par un survivaliste qui s'est rendu coupable de violences sur conjoint, hein, auparavant. Hein, et il se trouve que vous dites, cet événement est d'abord présenté comme le comportement d'un forcené, et c'est un fait divers. Et puis, il va falloir un peu de temps pour que il change de statut, si je puis dire, alors que c'est un comportement manifestement dicté par quelqu'un d'hyper violent, hein, qui avait des armes sur lui. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer là avec
ça? Si vous voulez, ce qu'on a voulu montrer, c'est au fond comment ont travaillé les journalistes du Monde à cette occasion. Il faut bien voir que les médias se font dans l'urgence. Le travail des agences arrive sur autrefois des téléscripteurs, maintenant sur des écrans. Il faut en rendre compte, d'où quelquefois des graves erreurs. On cite le cas, il y a 40 ans maintenant, de Timișoara, en Roumanie, où...
pseudo charnier.
Un soi-disant charnier, oui, même qui maintenant, je pense que ça serait de plus en plus difficile parce que les dispositifs de contrôle, y compris technologiques, sont de plus en plus puissants. Mais qui à l'époque, un journal l'a annoncé, et puis les autres ont suivi.
La vie de décès de Martin Bouygues,
voilà, c'est ça. Et donc, si vous voulez, il travaille dans l'urgence avec des risques d'erreur. Et ils travaillent avec des précédents. Il y a des genres, de même qu'il y a des genres littéraires, comme le mélodrame, il y a des genres de faits divers. Et le forcené est un genre de faits divers. Le forcené, c'est un homme seul, avec une arme, qui a perdu la tête, etc. Et là, c'était un forcené qui avait quand même fait fort, si je puis dire, parce qu'il avait tué 3 gendarmes. Et il avait manqué de tuer son épouse. Donc ça apparaît dans Le Monde. S'il avait juste... blessé quelques personnes de peu importantes, je pense que ça ne serait pas apparu dans Le Monde, mais il avait tué 3 gendarmes, donc ça s'approchait d'une affaire d'État. Et puis plus rien pendant une dizaine de jours, et puis ça revient avec ce qu'on appelle des faits dérivés.
Voilà.
Des faits dérivés qui vont ajouter à la force de l'événement et qui vont le politiser parce que il va être annoncé, ce qui n'était pas dit dans le premier article, que c'est un catholique intégriste, que c'est politisé via Trump, que c'est une affaire trumpiste à la française, que c'est un intégriste, qu'il adore les armes, et qu'il s'attaquait d'abord à sa femme, donc c'est un cas de féminicide.
D'accord.
Et du même coup, ça devient un... Et que les autorités... alors qu'il avait fait des menaces avant, n'en ont pas tenu compte. Donc ça s'orientait vers l'affaire d'État, vers laquelle ça n'est pas allé. Et donc c'est un bel exemple de politisation d'un article en s'appuyant sur un processus qui est un processus de politisation au niveau national et même mondial, après MeToo, qui a fait que des cas qui étaient considérés comme des faits divers, comme des crimes passionnels, comme on disait encore il y a une vingtaine d'années, et qui apparaissaient uniquement dans les journaux, qui certainement pas dans Le Monde, mais par exemple, ça pouvait apparaître dans Le Parisien, des journaux qui accordaient une de la place à ces faits divers, sont transformés. On dit ce ne sont plus des problèmes purement individuels, ce n'est plus des problèmes passionnels, à juste titre, hein, ce n'est pas du tout une critique de ce processus, ce sont des problèmes qui touchent un phénomène collectif qui est celui de la violence masculine à l'égard des femmes, et que ce problème concerne l'ensemble du corps social et interpelle l'État. Ce qui montre bien que dans les processus de politisation, il y a toujours une interpellation à l'État pour demander des mesures policières, par exemple, particulières, et des lois. Eh bien, dans le crime de Saint-Just, c'est un petit moyen de saisir sur quelque chose qui se présentait d'abord comme un fait divers.
La dimension du féminicide est sans doute plus importante dans ce processus de politisation que d'avoir tué 3 gendarmes.
En tout cas, c'est les 3 gendarmes sont oubliés dans le second article, si je puis dire. C'est cette dimension-là qui vient au premier plan.
Arnaud, Luc Boltanski a parlé des faits dérivés. Vous mettez en relation dans le livre les faits primaires, hein, c'est-à-dire un fait donné, et puis les développements qui peuvent en être faits, c'est des faits dérivés. Dans l'histoire, il y a des faits dérivés qui ont eu des conséquences bien plus importantes que le fait primaire. L'attentat du 28 juin 1914 à Sarajevo, moi, qu'on puisse dire, c'est que le fait primaire a été littéralement blasté par les quatre ans qui ont suivi. Au point, d'ailleurs, on l'oublie souvent, que les vainqueurs de 14-18 ont voulu faire signer le traité de Versailles exactement le 28 juin 1919, c'est-à-dire cinq ans jour pour jour après l'assassinat de Sarajevo. La date n'avait pas du tout été choisie au hasard. L'effet dérivé, c'est quelque chose qui est presque sans limite en matière de développement.
Oui, on peut dire ça. Alors, je regarde en même temps l'heure qui dérive elle-même, puisqu'il est presque...
On a une heure, voilà. On est dans les temps, on va arrêter.
Mais les faits dérivés, d'abord, on part de l'idée, au fond, si vous voulez, on considère que les faits eux-mêmes, ils peuvent être vrais ou faux. Voilà. Et que par contre, les interprétations qu'on peut donner des faits, elles peuvent être justes ou désajustées. Et en ce qui concerne les événements, en revanche, on considère qu'ils sont construits. Donc qu'il y a des constructions d'événements. Donc effectivement, quand on agglomère un ensemble de faits et qu'on a des faits dérivés, on fait évoluer la construction de l'événement et on peut aussi déconstruire l'événement puisque l'événement est construit. C'est voilà le type d'approche qu'on a.
Bon, ça va. Oui, allez-y.
Oui, je veux juste ajouter un petit quelque chose à ce que vient de dire Arnaud sur les faits dérivés. C'est que les faits renvoient à l'actuel. Dans le cas de l'actualité, en histoire, ils renvoient au passé. Mais ils sont ancrés dans un monde réel, dans un monde d'objets. Mais dans les interprétations, vous avez deux autres types d'éléments qui interviennent, qui peuvent être présentés comme des faits ou des suppositions, qui sont des causes passées de l'événement, qui vont changer le sens de l'événement, ou des conséquences prévues ou anticipées de l'événement qui vont également changer le sens de l'événement. Et donc, si vous voulez, lorsque vous faites intervenir dans la présentation des événements, d'un côté les causes, avec des conflits sur les causes, et on le voit par exemple actuellement complètement dans la guerre à l'Est, toute la propagande russe, fait appel à une histoire du passé. Et quand vous voyez l'importance dans un grand nombre de cas de description, d'interprétation d'événements, ce que si vous laissez faire ça, si c'est maintenant qu'on a vu ça, il y aura ceci, vous voyez, si vous voulez, que vous avez des choses, des faits réels et des interprétations qui prennent appui sur des faits qui peuvent être vrais, qui peuvent s'avérer, comme on dit, vrai ou faux, ou qui peuvent, dans le passé, être acceptés par les historiens qui sont les juges du passé, si je puis dire, ou non, mais qui n'ont pas la même teneur que les faits ancrés dans la réalité actuelle.
Alors c'est d'autant plus important, ça, on va terminer là-dessus, que vous montrez combien l'actualité et l'actualité politique a presque une dimension, on pourrait dire, maïeuticienne. Elle accouche d'un certain nombre de choses. Les derniers mots de votre ouvrage sont éloquents. Hein. C'est la relation dialectique entre des faits connus par expérience et des éléments rapportés, ce que vous avez dit au tout début de notre échange, hein, Luc Boltanski, entre le vécu et puis les éléments rapportés, relevant pour une bonne part d'entre eux de l'actualité, avec des récits de vie de personnes dont on ne croira jamais le chemin. Et c'est cette relation dialectique, donc, qui permet aux principaux objets de lutte de se constituer. Alors, on a parlé de politisation, de dépolitisation, c'est anecdotique, mais vous savez que dimanche soir, soir du premier tour des résultats TF1, première chaîne d'information au niveau du grand public, arrête sa soirée électorale à 21h30. C'est la première fois que ça arrive. Faut passer les visiteurs. Ça vous inspire quoi, ça? C'est la fin de l'actualité politique? vous le saviez, je pense. Hein.
Écoutez, non, mais c'est-à-dire, peut-être que TF1 regrettera son choix et retardera l'horaire, j'en sais rien. Elle sera débordée par l'actualité politique. Non, mais c'est une manière de donner un point d'arrêt à la. Effectivement, à la. Le temps de la soirée, en tout cas sur TF1.
C'est de la contre-programmation, on va dire.
C'est de la contre-programmation, ça c'est sûr. Je sais pas de. C'est pas Luc.
Non,
vas-y.
Je crois qu'il faudrait dire deux mots sur une partie du livre qui porte sur les commentaires eux-mêmes.
Oui.
Et sur deux éléments. D'une part, sur le fait que nous avons pu avoir accès aussi aux commentaires qui avaient été refusés, que Le Monde avait refusé de publier. Parce qu'il les trouvait, qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, qu'il y avait des mots qui ne devraient pas y être. D'ailleurs, les logiciels ont une liste de mots défendus. On en publie quelques-uns, une espèce d'injure. Et c'est environ 25% des commentaires. Et c'est une entreprise spécialisée qui s'appelle de modération qui fait ce choix et qui nous a, à la demande du Monde, donné aussi accès à ces commentaires refusés. Donc on a pu comparer les normes d'acceptation. Et puis, on a quand même analysé, vous nous interrogiez tout à l'heure sur qu'est-ce qui est politisé ou non politisé. Je vous ai dit qu'on vous ai répondu sur les processus de politisation, mais pas sur le contenu. Sur l'explication du contenu, ça serait une autre affaire et nous faudrait un autre livre. Mais au moins sur les contenus qui sont politisés ou non politisés dans ces commentaires du Monde de septembre-octobre 2019, eh bien notre étonnement a été, spécialement le mien, qui suis beaucoup plus vieux qu'Arnaud, ça a été que des choses qui étaient centrales politiquement dans ma jeunesse, n'était pas très très présent dans les commentaires, peut-être parce que ça ne correspondait pas à des événements à l'époque pendant ces deux mois.
Vous pouvez donner un exemple, oui.
Particulièrement l'économie. L'économie n'était pas très présente, ou des mesures économiques n'étaient pas très présentes. Par contre, des éléments qui autrefois n'étaient pas centraux concernant au fond la religion, l'immigration, la question des musulmans en France qui occupe une place centrale dans les commentaires de ces commentateurs du Monde, l'écologie et des questions sur la sexualité, les transgenres, la PMA, etc. Et donc, si vous voulez, il s'agit, on peut dire, de problèmes qui sont précisément des problèmes en cours de politisation intense, souvent d'ailleurs, pas dans le cas du Monde, ce n'était pas des trolls, c'était des lecteurs qui souvent regrettaient d'avoir à prendre des positions qui ne correspondaient pas à leurs aspirations de jeunesse, on va dire. Mais ce sont des éléments, si vous voulez, témoins. Par exemple, Zemmour est très discuté il y a deux ans, alors que personne ne savait qu'il serait candidat. Ce sont des éléments qui témoignent de choses qui, malheureusement, font écho avec ce que l'on discute, ce que l'on craint, selon ses choix, que je crains, et qu'Arnaud craint, par rapport aux élections présentes.
Merci, messieurs. Merci. Je crois qu'on peut vraiment applaudir et remercier.